signification de parler. On parle de péché, mais de savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le péché et finalement, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que la Bible dit dessus? Et vous allez voir, alors, pour moi, ça a été, c'est assez délicat puisqu'il s'agit de pas non plus tomber dans la culpabilisation, et c'est pas le but, mais de montrer aussi la grâce. C'est Calvin qui va dire, le réformateur Calvin, qui va dire, pour comprendre la grâce de Dieu, il faut comprendre avant tout le péché. Sans connaître le péché, la gravité du péché, on ne peut pas mesurer la grâce entière et pleine de Dieu. Et c'est Calvin qui va insister lourdement, du coup, sur le fait que l'homme est impacté dans tous ses domaines de sa vie. Au niveau de ce qu'il fait, au niveau de ses émotions, au niveau de son intellectuel, tout ce que nous sommes est impacté par le péché. Il n'y a pas une once en nous qui n'est pas atteinte par le péché. Du coup, tous nos sentiments sont loin de ce que Dieu désire, et c'est pour cela que la grâce de Dieu arrive. Je vais commencer par une histoire. En 1725, va naître un homme, et vous allez peut-être connaissez sans doute cet homme, c'est John Newton. Il va grandir dans une famille chrétienne, et sa mère va prier pour lui, va chanter des cantiques, va lui parler de Dieu. Mais elle va mourir assez tôt, et alors qu'il n'a que 8 ans, John Newton se retrouve sans sa mère. Son père va se remarier, mais très vite, voilà, la foi va perdre le sens dans cette famille. Il va plus entendre parler de Dieu. Très vite, il va s'endurcir, il va être embarqué sur les bateaux, il va devenir marin. Il va vivre une vie violente et très loin de Dieu. Il va finir par devenir marchand d'esclaves. Il va vendre des hommes, des femmes, des enfants pour de l'argent. Il va commander un jour un navire. Du coup, et en plein océan Atlantique, en pleine tempête, il va être pris dans une tempête féroce. Les vents vont rugir, ils vont déchirer les voiles, ils vont arracher les mâts, et l'eau commence à rentrer de partout. Et Newton, qui est à la barre, est trempé jusqu'aux os, et il sent qu'il peut mourir. À ce moment-là, alors qu'il vit une vie très loin de ce que Dieu demande, il va ressentir le poids de ses péchés, et il va réentendre une promesse que sa maman lui avait dit, une parole de Dieu qu'elle avait citée dans le Nouveau Testament, et il va réentendre cette phrase en plein milieu de cette tempête. « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Cette parole de Jésus va ressortir dans ce moment critique. En larmes, il va crier au Seigneur « Aie pitié de moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. » Il comprend que Dieu l'a sauvé malgré lui, et quelque part, il va sortir de cette tempête indemne, et cet ancien marchand d'esclaves va devenir pasteur. Il va écrire ce chant que nous chantons et que vous connaissez, « Amazing Grace », « Grâce infinie ». Ce chant, il va dire ceci, hein, « J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Il va travailler sans relâche à l'abolition de l'esclavage, lui qui était esclavagiste, pour l'Empire britannique. Il va témoigner devant le Parlement, devant des hommes d'État, pour que quelque part, 20 ans après, l'abolition se fasse. Et sur son lit de mort, il va dire ceci à ses amis, alors qu'il perd sa mémoire. « Je n'ai presque plus de mémoire, mais je me souviens de deux choses. Que je suis un grand pécheur et que Jésus-Christ est un grand sauveur. » Et cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est la nôtre. Et c'est celle, du coup, qui a commencé depuis le début de l'humanité. Je vous propose ce matin d'ouvrir nos Bibles. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Nous allons voir une histoire qui ressemble à celle de John Newton. Et nous allons voir, du coup, un homme, une femme, qui vont quelque part s'éloigner de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Là, je vous invite à prendre vos Bibles si vous l'avez, puisque le texte est assez long, donc vous n'aurez pas tout le texte après. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres, et le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ?» Et c'est le titre de mon message ce matin pour parler du péché. Où es-tu? Cette phrase puissante de Dieu, alors que l'homme et la femme s'éloignent, cette parole du Seigneur, où es-tu? Mais voilà, avant de parler concrètement du péché et de comprendre ce que c'est le péché et de l'expliquer, je vais vous poser la question. Quand vous entendez le mot péché, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, Anita? C'est le mal, oui. C'est vrai, c'est le mal, autre chose? Avoir raté complètement, oui. C'est une des définitions. C'est rater le but. Manquer la cible, c'est des bonnes définitions, ça, ouais, ouais. Autre chose? Loin de Dieu. Loin de Dieu. Ah oui, loin de Dieu, ouais. Parce que oui, loin et loin, c'est pas la même chose. Loin de Dieu, effectivement, loin de Dieu, ouais. Oh, c'est des bonnes définitions, tout ça. Est-ce que le péché, c'est une faute morale, une règle qui est brisée, voilà, on n'applique pas ce que Dieu veut, une punition, est-ce que c'est tout cela? Allez-y, hein, il y en a entre nous. Alors, en partie, hein. On ne va pas dire non, si, si, en partie. Mais le péché, ça ne se limite pas qu'à ça. Bien souvent, nous, êtres humains, on considère le péché dans ce que nous faisons. Mais le péché dont on va parler, c'est ce qui est attaché au cœur de l'homme. Je dis souvent à la maison, moi j'ai deux pécheurs. Et pourtant, mes enfants, dès qu'ils sont nés, ils n'ont pas menti ou quoi que ce soit. Mais la Bible va déclarer que le péché est attaché à nous. Dès le sein de notre mère, c'est le roi David qui va dire, je suis un impie. Je suis pécheur. Et du coup, c'est pas ce que je vais faire après qui va déterminer que je suis un pécheur ou saint. Pas du tout. Alors ça, les catholiques peuvent le croire, mais la théologie biblique ne le dit pas cela. Nous sommes pécheurs dès la naissance. C'est un héritage mauvais que nous avons, que nous héritons du premier homme, Adam, et qui se perpétue de génération en génération. C'est de ce péché-là dont on va parler, qui va découler du péché que l'on connaît tous, hein, qui va commencer par les actions que l'on peut avoir ou les pensées. Mais le péché, avant tout, c'est ce qu'on vient de dire, ce que mes sœurs ont cité, une rupture de confiance, une fuite, intermédiairement, loin de Dieu. Fuir loin de Dieu, c'est quelque part un peu une définition du péché. Et première partie, je vais commencer par ce point, le péché commence par la méfiance sur la bonté de Dieu. Dans ce texte, versets 1 à 5, le serpent va dire à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il y a le doute qui va commencer à s'installer, la méfiance. Le serpent ne pousse pas Ève à désobéir d'un coup. Et le diable, malin, il sait s'y faire. Il va commencer subtilement, il insinue le doute. Est-ce que le Seigneur a vraiment dit? Dieu veut-il vraiment ton bien? Dans la situation que tu vis, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu crois là? Sinon, pourquoi tu vivrais tout cela? Pourquoi tu vivrais des situations de galère? Pourquoi ta famille, c'est compliqué? Il n'y a pas la paix dans ta famille. Pourquoi finalement tout cela tu les vis? Et ça, c'est le doute qui s'insinue. Ou quelquefois, le Seigneur qui, on veut faire quelque chose et lui ne veut pas que nous les fassions et on s'insurge, un peu ici comme Ève. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur nous dit non? Le premier péché ici que l'on voit dans ce texte ne vient pas de la désobéissance, mais d'une déformation de l'image de Dieu. Déformation que le diable va faire passer, et le serpent ici, qui symbolise ici le diable, fait passer Dieu pour un tyran qui prive, alors que Dieu est un père qui protège. Dans ce jardin, c'est intéressant parce que Dieu va dire « tu ne mangeras pas de l'arbre de ce fruit ». Et Ève et Adam vont être focalisés sur cet arbre, alors qu'il y a tous les arbres du jardin. Mais ils sont focalisés sur l'interdit. Un interdit que Dieu n'explique pas. Hein. Et on pourrait se dire, mais pourquoi? Est-ce que c'était un piège ou pas? Mais ce n'est pas la question. La question, c'est d'obéir. Et le diable a joué de cela. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que du coup, et je vous pose la question, est-ce que si je doute de Dieu, c'est mal? Est-ce que c'est un péché? Non. Alors du coup, comment comprendre par rapport à ce texte? Quelle est la différence? Parce que là, Ève va douter de Dieu, elle va pécher, hein, clairement. Mais du coup, si vous me répondez non, du coup, quelle est la différence entre cette histoire-là et les doutes que nous pouvons traverser et vivre? Oui, Juliette. Oui, c'est ça. Le doute en soi, mes frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Quand on doute, et on peut douter, dans la Bible, on voit plusieurs hommes et femmes hein, qui vont douter de Dieu, le prophète Élie, et même plein d'hommes, Moïse aussi va douter, plein d'hommes et de femmes qui vont douter de Dieu, mais le doute ici, ce n'est pas mauvais. Maintenant, c'est de ce doute, qu'est-ce que j'en fais? Si ce doute devient de la méfiance, là, on commence à pécher, puisqu'on déforme du coup ce que Dieu est. Quand je cesse de lui faire confiance, et quand ce doute, du coup, m'empêche de faire confiance au Seigneur, là, il y a un problème. Là, je m'éloigne de lui. Si je ne fais pas confiance au Seigneur, je m'éloigne de Dieu. Et du coup, je commence un péché. Un exemple. Israël dans le désert. Dans Exode, les Israélites qui vont sortir, du coup, de l'esclavage en Égypte, ils vont commencer à douter. Parce qu'ils sont dans le désert, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture. Et ils vont commencer à dire, Dieu nous a fait sortir pour mourir de faim. Là, ce n'est plus du doute qu'ils ont, c'est une accusation. Ils accusent Dieu de quelque chose. Tant qu'ils étaient dans un doute qui ne produisait pas un fruit, mauvais, ça allait, mais là, le fruit va être l'accusation, la méfiance. Et cette méfiance, du coup, va être une accusation contre Dieu, et ça, c'est le début du péché. À cause, d'ailleurs, de cette méfiance, ils vont tourner 40 ans dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas su faire confiance à Dieu. On dit tous, on veut faire confiance à Dieu. Et quelque part, du coup, est-ce que réellement, nous sommes dans une confiance totale où la méfiance rentre en ligne de compte? Pour nous, ça peut être finalement à chaque fois que je me dis je ne comprends pas ma situation et je vais faire à ma manière. Et c'est la fin, quelque part. Dire je ne comprends pas ma situation, il n'y a rien de mauvais en cela, c'est le doute. Dire par contre je vais faire à ma manière, là il y a une décision que l'on prend par rapport au doute que je peux avoir. Et la confiance à Dieu est rompue. On peut dire après tout ce qu'on veut, mais ça c'est le début du péché. C'est ce que Ève va faire. À travers le diable qui va insinuer ici le doute, mais la méfiance c'est elle qui va l'avoir. Quand je ne crois plus quelque part que Dieu veut mon bien. C'est cela le péché. Quand je crois que Dieu ne veut plus mon bien et qu'il veut autre chose. Et que moi j'ai peut-être une meilleure solution que le Seigneur. On peut voir l'exemple de Jésus qui, lui, au contraire, a toujours cru à la bonté du Père, même à la croix. À la croix, alors qu'il est Dieu, il va dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Le Seigneur va faire confiance à son Père. Il est seul durant toute cette épreuve de la passion, de la croix, et pourtant sa confiance au Père, elle n'est pas déstabilisée. Elle ne rentre pas en méfiance, pourtant Jésus va douter hein, dans le jardin. Il va crier à Dieu, mais ce doute ne produira pas un fruit mauvais, ne produira pas la méfiance. La rupture de confiance. La confiance en son Père sera totale et entière. Ici, dans ce texte, la méfiance a semé la graine. Maintenant vient la décision. Croire Dieu ou se faire confiance à soi-même. Ève va choisir, et Adam, hein, l'indépendance, qui va faire suite quelque part du coup à ce doute qui aura mal été canalisé. Deuxième partie, c'est le péché ici, c'est vouloir vivre sans Dieu. C'est ce qui découle de cela, c'est les versets 6 à 7. Le diable va dire ceci, vous serez comme des dieux. C'est la phrase qui va faire du bien à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Voilà le cœur du péché, l'indépendance spirituelle. Adam et Ève ne veulent pas tuer Dieu. Ils veulent juste ne pas dépendre de lui. Ils veulent juste couper le lien qui les lie au Seigneur. C'est le rêve humain depuis toujours. Je veux décider moi-même du bien et du mal. C'est ce que nos contemporains dans nos sociétés disent, hein, une vie sans Dieu. Et le péché, c'est cela, être quelque part maître de sa vie, seul maître à bord. Alors, est-ce que être maître de sa vie, c'est toujours mauvais? Est-ce que du coup, quand on dit cela, est-ce que si je vous dis, voilà, est-ce que je vous pose la question, est-ce que être maître de sa vie, c'est toujours mauvais? Alors si vous me dites non, du coup, pourquoi? Ouais. Oui, c'est vrai. Mais du coup, comment on vit cette relation avec Dieu? Dieu nous a créés responsables. Il nous a créés responsables, mais avec un libre arbitre de choisir de le suivre ou pas. Mais il veut avant tout que nous soyons des gestionnaires de notre vie. Nous sommes ici-bas des gestionnaires de notre vie, de nos responsabilités. Dieu nous demande d'être des bons gestionnaires et de gérer sa vie, de faire des choix, de planifier. C'est même biblique, hein, d'être responsable de soi-même. Mais là où ça devient mauvais, c'est quand je me fais seigneur de ma propre vie. Quand sur la gestion que je fais de ma vie et de ce que j'ai en charge, je ne demande plus l'avis de Dieu. Ou je sais ce que Dieu veut, mais je préfère être seul capitaine à bord. Et quand je ne rends plus compte à Dieu, quand je ne cherche plus sa volonté, quand je décide seul ce qui est bien ou mal, quand je cherche quelque part l'indépendance. Hein. Et là, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hein. Dans nos églises, mes frères et sœurs, beaucoup disent suivre Dieu, mais quelque part, c'est les seuls capitaines de leur navire. Et ça peut venir progressivement, sans qu'on s'en rende compte. On peut perdre le fil. Dans la Bible, il y a cette histoire du fils prodigue qui va partir, il va dire « Donne-moi ma part, je pars. » Il cherche l'indépendance. Il va le laisser partir. Pas de révolte violente hein, ici, le fils ne va pas tout casser, juste une autonomie tranquille. C'est ce qu'il cherche. Mais loin du père, il découvre la faim, la honte, la misère. Et de même ici, le péché promet la liberté, mais donne ici la misère. La misère spirituelle, mais cette misère spirituelle, elle découle de manière pratique dans la vie, elle produit la mort. Et on va le voir hein, dans les prochaines prédications, cette mort, elle n'est pas que spirituelle. Le péché, j'aime bien dire cette phrase, quand tu penses avoir atteint le fond, tu peux toujours creuser. C'est ce qui est terrible avec le péché. L'être humain, dans ce qu'il peut faire d'horrible, il peut faire encore pire. Nous sommes doués pour cela. C'est le péché. Aujourd'hui, le monde ne rejette pas toujours Dieu avec colère, hein, d'ailleurs. On parle à certains. Certains ne sont pas forcément fâchés contre Dieu. Mais ce qu'ils veulent, c'est une indifférence polie. C'est une indépendance, quelque part, totale. Qu'on ne les dérange pas dans leur vie. Quelque part, cette phrase-là, hein, « Merci Seigneur, mais je gère. Je gère ma vie. Laisse-moi tranquille. Moi, je te laisse tranquille. Et puis, tout le monde est content. » Mais ça, c'est le péché, ça. L'indépendance à Dieu. Ce que Adam et Ève ont voulu chercher, est-ce qu'ils vont les faire chuter? Nous, chrétiens, nous pouvons faire pareil. On peut dire, Seigneur, je te prie le dimanche, quand je suis au culte, mais pour le reste de la semaine, je contrôle. C'est moi qui contrôle. Tu ne regardes pas ce que je fais, je contrôle. Mais vivre ici sans dépendre du Saint-Esprit, c'est déjà glisser hors du plan de Dieu. C'est Jésus hein, qui va dire ceci, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est intéressant de voir Jésus, parce que Jésus qui est Dieu, va suivre ce chemin. Alors qu'on pourrait se dire, bon, lui au moins, il est quand même Dieu, il pourrait être autosuffisant. Il pourrait l'être. Mais il ne dépend pas lui-même, tout seul. Avec les trois aspects de la Trinité, Jésus va être en communion, en unité. Et il va dire cette phrase, hein, le Fils ne peut rien faire de lui-même. À plus forte raison, si Jésus a vécu comme cela dans la puissance du Père, nous devons être dans la dépendance totale à Dieu. Le péché dit « je n'ai pas besoin de Dieu » et le Christ dit « sans le Père, je ne suis rien ». Voilà, on vient de voir ces deux points. La méfiance par rapport à Dieu, l'indépendance. Et ce troisième point, c'est que durant toute cette fuite, durant tout cet cheminement là où on voit Adam et Ève qui pêchent, la chute quelque part, l'entrée du péché dans l'humanité, il y a cette voix et cette voix forte qui se fait entendre « Où es-tu ?» Dieu ne laisse pas l'être humain tout seul dans sa misère, il va surgir. Et c'est mon troisième point, le péché conduit à la fuite, mais Dieu cherche encore. Ils se cachèrent, verset 10, et Dieu dit « Où es-tu ?» J'aime bien cette phrase parce que Voilà, le résultat du péché ici va entraîner la peur, la honte. Adam et Ève vont se cacher, comme s'ils pouvaient se cacher de Dieu, mais ils se cachent. Et alors que Dieu, du coup, ici, balaye son regard dans le jardin d'Éden, Dieu ne fuit pas l'homme, alors qu'il est saint, et que le péché, il l'a en horreur. Alors ça, c'est le terme biblique. Hein. Dieu est loin du péché, il l'a en horreur, et pourtant, c'est lui qui va vers l'homme. L'homme qui a voulu son indépendance, finalement s'est révolté contre Dieu, Dieu va arriver, il va poser cette question, où es-tu ? Non pas parce qu'il ignore où sont Adam et Ève, mais parce qu'il veut rétablir la relation, reconnecter. Et moi je me suis posé la question, et je vous pose la question ce matin, pourquoi Dieu pose cette question ? Où es-tu ? Il sait déjà où est Adam et Ève, du coup pourquoi il pose la question ? Est-ce qu'il a besoin de parler à quelqu'un ? À votre avis, pourquoi il leur pose la question ? Oui, pour les insister à se positionner, ouais. Oui, c'est vrai. Alors, pour partir ce que tu dis, Marlène, il y a un mot qui définit ce que tu viens de dire. Et que Dieu cherche dans le cœur de tout homme. Oui, 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 tout ça c'est juste. Alors, Dieu pose cette question quelque part parce qu'il attend une confession. Que nous confessions ce que nous avons fait. Dieu sait, hein, dans nos vies, nos travers, nos péchés. Pourtant, il attend que nous confessions. Des fois, nous oublions, hein, dans nos églises, la confession de nos péchés. Prononcer dans nos paroles que oui, ce que j'ai fait, c'est mal. Et pourtant, le pardon commence par là, par reconnaître nos fautes. Pas dire « Dieu sait ». Non, 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 Dieu sait, mais est-ce que toi, tu reconnais ta faute ? C'est ce que Dieu va faire. À travers cette question « Où es-tu ?», Jésus ici vient chercher, quelque part, une confession de la part de Adam et Ève. C'est la première étape, d'ailleurs, du pardon, reconnaître la faute. On a cette illustration, hein, dans le Nouveau Testament avec Pierre. Après son reniement, il y aura la même réflexion. Jésus, qui finalement, après la résurrection, va venir chercher Pierre sur la plage et qui va poser par trois fois cette question, « M'aimes-tu ?» Jésus sait déjà la réponse pourtant, mais il attend que Pierre se positionne. Il attend du coup que Pierre déclare de sa bouche où est-ce qu'il en est. Ici, c'est le Dieu qui restaure avec Pierre. Et peut-être que toi aussi, ce matin, tu te caches derrière plein de choses. Ça peut être ton service, ton image spirituelle, on l'a entendu ce matin, hein, ta profession, plein de choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. Mais Dieu ici te cherche. Pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Et la croix, c'est ce Dieu qui crie à nouveau, « Où es-tu ?» Ce matin, je veux vraiment que nous nous positionnions devant le Seigneur, et si nous nous sommes éloignés ou que vous ne connaissez pas Dieu, le Seigneur qui dit « Où es-tu ? Reviens vers moi. Reviens te revêtir de ma grâce, cette grâce qui coule encore. » À la croix, Jésus va prendre la place du fuyard, de celui qui est un assassin, un meurtrier. Il va prendre cette place, alors que lui n'est pas meurtrier ou un assassin. Il va prendre quelque part la place que nous méritions. Il s'est laissé cacher du visage du Père pour que nous puissions être retrouvés par lui. C'est Jésus, hein, qui va crier cette phrase, « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce cri de Jésus répond quelque part à la fuite d'Adam, du premier homme qui va pécher. La grâce ici a le dernier mot. À nous ce matin de pouvoir nous positionner devant Dieu, et peut-être que ce matin tu te dis, voilà, ma vie elle est perdue, c'est trop compliqué, je me suis trop éloigné de Dieu. Et bien dans ce que tu peux vivre de compliqué, justement le Seigneur est venu pour cela. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de situation qui est trop grande pour le Seigneur, qu'il ne puisse pas pardonner, qu'il ne puisse pas aimer. Adam et Ève, ce qu'ils ont fait, c'est très grave. Hein. Au-delà de la faute qu'ils ont commise, ils ont entraîné toute l'humanité dans le péché. Donc c'est assez grave. Hein. Quelque part, nous pouvons même après leur reprocher cela. Et pourtant, dans cette faute, Dieu aurait pu faire quoi ? C'est le début de l'humanité, allez, on rase tout. Ils veulent leur indépendance, allez, on écrase tout, on recommence. Non, il va revenir vers eux. Où es-tu? Il va les vêtir de peau de bête. Déjà, on voit ici une signification ici d'un animal qui va sacrifier sa vie pour leur faute. Je ne sais pas si vous connaissez Yanis Gauthier, pasteur Yanis Gauthier, voilà, qui est aujourd'hui évangéliste. Je l'ai croisé cette semaine, il y avait le séminaire des ADD là, et un homme qui a un témoignage formidable. Et un jour, un journaliste va lui demander, poser cette question. Alors voilà, Yanis Gauthier, il a touché à tout ce qui est trafic de drogue et surtout grand banditisme, braquage de banque et compagnie. Et il va changer complètement de vie. Et un jour, cette journaliste va lui demander « Qu'est-ce qui vous a changé ?» Et il va répondre « J'ai compris que Dieu n'était pas venu pour me juger, mais pour me retrouver. » Et il va citer cette histoire quelque part de ce Dieu qui revient constamment, constamment quelque part à celui qui s'éloigne de lui. L'homme se cache, mais Dieu cherche. Et ce matin, il te cherche encore. Où es-tu ? Avant de prier, je voudrais revenir sur l'histoire que j'ai citée au début de John Newton. John Newton va écrire ses paroles, tu peux te le mettre sur sa tombe. Il va faire inscrire cette parole, alors en anglais, puis je vais vous le traduire. John Newton, autrefois infidèle et libertin, marchand d'esclaves en Afrique, fut par la grande miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ préservé, restauré, pardonné et désigné pour prêcher la foi qu'il avait si longtemps cherché à détruire. Ce qui est beau, c'est qu'on a un Dieu qui ne fait pas que pardonner. On a un Dieu qui restaure. Qui a restauré l'humanité, qui restaure la vie de tout en chacun. Et qui ne fait pas juste « Allez, je pardonne et on se quitte ». Non, 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 non. Il donne beaucoup plus que ce que nous-mêmes, nous sommes capables. Romains 6, verset 23. « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu ne se contente pas ici de te pardonner, il te relève pour te refaire marcher avec lui. Courbons nos têtes ce matin. Que nous puissions disposer nos cœurs et répondre à cet appel de Dieu. Et peu importe où est-ce que tu en es, que tu t'approches de Dieu, que tu te dises, voilà, où est-ce que j'en suis? Peut-être que je ne connais pas Dieu et j'essaye de le chercher. Ce message, il est pour toi ce matin. Dieu te cherche aussi. Il veut trouver la porte de ton cœur. Mais tu peux aussi connaître le Seigneur depuis 30, 40 ans, 50 ans, allez, même plus peut-être. Et vivre sans que tu te rends compte, peut-être que tu as lâché la main de Dieu. Ce matin, on a eu plusieurs paroles du Seigneur. Qui allait dans le même sens, et c'est le Seigneur te dit ce matin, où es-tu? Ce où es-tu, c'est un où es-tu rempli d'amour. Mais Dieu attend que tu confesses ce que tu vis, que tu reconnaisses ta faute, que tu reconnaisses ta situation, et lui sera capable de faire bien au-delà de ce que toi tu penses. Dieu nous a donné ici son esprit, ce Saint-Esprit qui est capable ici de transformer la vie de tout homme et de toute femme. De réparer les blessures, de panser les plaies. Ce matin, que nous puissions répondre au Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je suis là devant toi. Je ne veux pas, mon Dieu, ne pas répondre à ta question, où es-tu, mais à ta question, je veux saisir ta main. Parce que je crois, mon Dieu, que c'est dans l'humilité que tu me cherches. Et mon Dieu, nous voulons encore nous approcher pleinement devant toi. Seigneur, viens encore poser ta main ce matin. Que ceux et celles, mon Dieu, qui se sont éloignés de toi, mon Dieu, puissent refaire ce pas. Que nous puissions, Jésus, laisser de côté tout ce qui peut nous empêcher de faire ce pas. Notre orgueil, notre peut-être, où nous pensons savoir te connaître, nous pensons être matures, alors que nous ne sommes rien. Nous voulons confesser, mon Dieu, que nous avons tellement besoin de toi, et que certes, face au péché, toi, tu es la solution. Tu ne nous as pas laissés seuls, livrés à nous-mêmes, mais tu as donné ta vie. Seigneur, que nous ne puissions ne pas mépriser cette grâce, qui un jour arrivera à son terme, mon Dieu, à ton retour, mais que nous puissions saisir ce temps de la grâce, pour qu'au jour où tu reviendras, soit nous chercher, ou soit à la fin de nos jours, nous puissions être trouvés fidèles, fidèle à ce que toi tu as fait. Viens nous aider, Jésus, à ne pas être tenté par l'indépendance, à être seul capitaine de notre navire, ou que dans nos épreuves, dans nos doutes, la méfiance, l'accusation, mon Dieu, ne puisse pas prendre place. Seigneur, tu vois nos cœurs, nous ne voulons pas encore nous montrer plus que ce que nous sommes, et nous savons les dégâts que le péché peut occasionner, mais aussi ce que toi, Jésus, tu as fait. Tu as vaincu le péché sur la croix. Il y a 2000 ans, mon Dieu, tu as mis un point d'arrêt, un point final à cela, et tu nous as déclaré saints, sanctifiés, enfants de Dieu. Que nous puissions, mon Dieu, saisir encore cette adoption que tu attends. Jésus, viens faire grâce encore ce matin. Amen. Alors que quelques voix s'élèvent.
Thank you.